spéculative risquée, oui, j'ai dépassé les limites fixées, oui, mais mes supérieurs me le demandaient, ça rapportait de l'argent. Donc voilà ce qu'il dit pour sa défense, ce que disent avec lui ses avocats pour sa défense. Vrai ou faux? En tout cas, à l'époque, en janvier 2008, notre Frédéric Lordon voyait la crise venir, non pas cette fois seulement la crise financière, boursière, mais la crise dans laquelle nous entrons, c'est-à-dire la crise, la rigueur, la fameuse rigueur qui serait censée régler et faire face à cette crise sur les salaires, sur l'emploi et sur la société tout entière qui est en train de gagner. J'évoque la bourse parce que le gars que vous écoutez, ce type qui s'appelle Frédéric Lordon, il est pour la fermeture de la bourse. Voilà. Il veut mettre tout ce monde-là dehors et en finir avec cette forme, cet aspect de la spéculation. Ça, je crois que c'est quelque chose qui relève du rêve, de l'utopie, mais pourquoi est-ce que les économistes, surtout les hétérodoxes comme Frédéric Lordon, n'auraient pas le droit de rêver?
Cher Lordon.
Oui, cher Mermet.
Oui, c'est dans l'imagination de quelqu'un comme moi, qui suis un Français un peu archaïque, un actionnaire, c'est un type avec un chapeau 8 reflets, une chaîne de montre en or, et qui est assis avec des pommettes rouges et qui sort d'un grand restaurant. Or, un actionnaire, ça peut être aussi un salarié. C'est-à-dire que quand ça morfle, quand ça plonge, le salarié actionnaire morfle et plonge lui aussi.
C'est un archaïsme qui n'est pas si mal fondé que ça. Alors je vais prendre la question un peu à revers. En repartant de cette idée qu'il y a vraiment de quoi faire sortir de ses gonds, que lorsque la finance pète le feu, elle garde les gains pour elle, mais lorsque c'est la déconfiture, elle y associe tout le restant de l'économie et de la société. Et alors, dans cette affaire, on cherche quand même de quoi échapper à ces affects de colère, parce qu'il y a vraiment de quoi être scandalisé. Et alors, on se dit, mais finalement, dans cette affaire, bien sûr, toute l'économie va morfler, mais quand même, les institutions financières, elles sont en première ligne. Et on ne les aime pas particulièrement. Elles vont faire des pertes, et leurs actionnaires peut-être avec. Et ça n'est pas de nature à nous attrister. Bon. Et puis, quand on y réfléchit à deux fois, effectivement, on se dit, mais attention, les institutions financières, avec quoi elles jouent sur les marchés et accessoirement avec quoi elles perdent? Réponse, avec du crédit bancaire, souvent, mais aussi énormément, avec de l'épargne. De l'épargne de qui? De l'épargne des salariés. Ah mais ça, c'est nous les salariés. Alors là, c'est beaucoup moins drôle. Alors, à ce stade, il va falloir faire des différences, parce que toutes les économies ne sont pas logées à la même enseigne. La financiarisation du salariat n'a pas atteint la même extension dans les économies, on va dire, anglo-saxonnes, américaines et britanniques essentiellement, ou dans une...
Qui sont nos modèles.
C'est normal, elles sont modernes. Et dans des économies, disons, paysannes, rurales et archaïques, comme les nôtres. Voilà. Alors, ça a un avantage, ceci, d'une certaine manière, l'archaïsme, c'est que les salariés qui sont véritablement mouillés dans l'épargne financière, c'est-à-dire ceux qui ont de quoi placer des sommes sur les marchés financiers, sont des salariés très privilégiés, ou privilégiés, tout court. Mais ce n'est pas le bas du salariat. Parce que le bas du salariat, dans le meilleur des cas, il a un livret A. Au mieux, il y ajoute un code EVI, et après, ça s'arrête là. Donc, pour commencer à jouer sur les marchés, il faut être un salarié de la haute. Donc, il est vrai que, de ce point de vue, la structure même du salariat français, et plutôt de son implication relativement modérée, pour l'heure, dans la financiarisation, a des propriétés en quelque sorte de justice sociale, si on peut dire. C'est de la justice sociale par la déveine, mais tout de même, on se dit que bah voilà, Bernard Arnault, il a 10 milliards, il y en a beaucoup qui sont en bourse, s'il en perd 10%, on va retenir nos larmes. Hein. Il lui en reste 9, ça laisse de quoi s'acheter encore une caravane pour partir en vacances à Boulouris, donc je l'ai, c'est bon, là, il n'y a pas de problème. La situation dans les économies américaines ou britanniques sont extrêmement différentes. Parce que là, tous les salariés sont le grand bain de la finance, et ce, par le truchement d'un piège qui est absolument mortel, qui est la financiarisation de l'épargne retraite. Tous les salariés sont intéressés à avoir une retraite, et pour avoir une retraite, si l'on met de côté des systèmes de répartition, des systèmes publics qui sont absolument misérables dans ces économies-là, on ne leur a pas laissé d'autre choix que de cotiser à des fonds de pension. Et les fonds de pension, ça joue sur les marchés. Et quand les marchés se retournent, les fonds de pension, ça perd.